L'été, c'est pour beaucoup le temps du repos, des vacances, du changement de rythme, un temps attendu, nécessaire et bienfaisant. Il arrive parfois que ce temps nécessaire du repos et de la coupure devienne aussi celui d'une certaine mise en veilleuse de la vie spirituelle, d'un certain relâchement vis-à-vis de Dieu ou des choses de la foi. Paradoxalement, il est parfois plus difficile de maintenir un cap spirituel pendant l'été ou les congés que quand nous sommes dans notre train-train habituel. Petite parenthèse en passant, l'inverse est heureusement vrai aussi. Et pour beaucoup, le temps des vacances, c'est aussi le temps du rapprochement avec Dieu, du renouveau, du ressourcement, du renforcement de la vie spirituelle. Il est évident que les vacances sont nécessaires. Il est évident qu'il faut parfois s'arrêter, faire autre chose, changer de rythme, se reposer. La question qui se pose ici n'est donc pas « est-il légitime ou pas de prendre des vacances ?» mais plutôt, cessons-nous d'être chrétiens quand nous sommes en congé? Cessons-nous d'être témoins du Christ parce que nous voyageons? Cessons-nous d'être au service de Dieu quand nous nous reposons d'un repos bien mérité? En réalité, nous le savons, le chrétien est appelé à servir Dieu et son prochain, c'est sa vocation. Et cette vocation concerne toute sa vie, été comme hiver, vacances comme travail ou scolarité. Servir Dieu. Voilà une notion spirituelle presque banale, mais qui n'en est pas moins floue par certains aspects. Que veut dire servir Dieu? Il y a à ce sujet beaucoup d'idées reçues, beaucoup d'idées fausses, de caricatures. Ainsi, on cloisonne, on distingue entre des services nobles à nos yeux et d'autres qui le sont moins. Ainsi, on considère souvent à tort qu'il y a des grands et des petits services. Ainsi, on considère généralement que nous servons bien Dieu quand nous accomplissons de grandes choses. Pas étonnant avec une telle conception des choses qu'il soit parfois difficile d'associer vacances ou repos avec service pour Dieu. J'aimerais ce matin vous proposer une autre clé d'entrée que la grandeur ou la petitesse pour le service auquel Dieu nous appelle. D'ailleurs, qui peut dire ce qui est véritablement grand ou petit aux yeux de Dieu? Et puis, ce qui est grand pour moi, l'est-il forcément pour Dieu? Ce qui est insignifiant pour moi, l'est-il obligatoirement pour Dieu? Il est essentiel pour nous, en réfléchissant à ce sujet, que nous comprenions que la perspective de Dieu n'est pas toujours ou n'est pas forcément la nôtre. Que nous comprenions que son échelle des valeurs n'est pas nécessairement toujours identique à la nôtre. Un des apprentissages de la vie chrétienne, ils sont nombreux, est celui d'apprendre à voir les choses par sa parole, comme Dieu les voit. Ainsi, ce qui nous paraît petit ou insignifiant peut être d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, ce qui nous paraît grand ou important peut être d'une valeur négligeable aux yeux de Dieu. Souvenez-vous de ce que Jésus dit à la fin du sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé des démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ce qui est grand à nos yeux peut ne pas avoir de valeur aux yeux de Dieu. Souvenez-vous aussi de l'épisode de la pauvre veuve dans les évangiles, qui n'avait mis que deux petites piécettes dans l'offrande, mais qui, en ayant donné de son nécessaire, avait donné bien plus que tous ses riches, qui avaient donné beaucoup plus qu'elle, mais qui avaient donné de leur superflu. Ce qui est petit à nos yeux peut avoir une grande valeur aux yeux de Dieu. Je crois que quand il s'agit de servir Dieu, il faut que nous nous dégagions totalement de cette idée de grandeur ou de petitesse pour en adopter une autre qui me semble bien plus appropriée. Et cette autre idée, je la trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, que j'aimerais vous inviter à lire maintenant avec moi, alors pas toute la lettre, mais juste quelques versets. Et ce matin, en tout cas pour ce verset, je lis dans la Bible, il a été question de traduction ce matin, dans la Bible dite à la colombe. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui est important quand nous parlons de servir Dieu, ce n'est pas les grandes ou les petites choses que nous pouvons faire, mais c'est de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est d'entrer dans le programme de Dieu pour nos vies. C'est de servir Dieu en accomplissant sa volonté, quelle que soit la grandeur ou la petitesse à mes yeux ou aux yeux des autres, de ce que Dieu attend de moi. Avec cette compréhension des choses, du service auquel Dieu nous appelle, qui me paraît être une compréhension bien plus juste, il devient beaucoup plus facile d'imaginer servir Dieu même en vacances, même quand j'ai légitimement besoin de repos. Parce que même en vacances, Dieu peut avoir préparé pour moi une ou des bonnes œuvres dans lesquelles il m'invite à entrer. Même à l'étranger, Dieu peut avoir préparé pour moi une rencontre pour que je partage ma foi. Ce qui est important, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit mon activité à ce moment-là, c'est de comprendre ce que signifie servir Dieu. C'est de comprendre que Dieu appelle à son service chacun de ses enfants. C'est de comprendre qu'il a pour cela tout préparé, de toute éternité. C'est de comprendre que notre part, c'est d'y entrer et d'y marcher. Mais qu'est-ce qu'une œuvre bonne ? Comment la reconnaître ? Comment ne pas passer à côté ? J'aimerais, pour répondre à ces questions, commencer par quelques généralités sur les œuvres bonnes dont parle notre texte et dont parlent aussi beaucoup d'autres textes du Nouveau Testament. Et je vais reprendre ici, partiellement en tout cas, quelques éléments d'un message que j'avais donné en 2010. Premièrement, j'aimerais souligner que c'est Dieu lui-même qui prépare nos œuvres bonnes. C'est ce que dit explicitement notre texte d'Éphésiens 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le temps du verbe préparer, pas en français mais dans le grec, indique que la période, ou indique, pardon, une période avant la création en Jésus dont il est question dans ce même verset. Nos œuvres bonnes ont été d'une certaine manière dans la pensée de Dieu de toute éternité. Et c'est là que Dieu a tout préparé pour que nous puissions un jour le servir, pour que nous puissions un jour entrer dans sa volonté, entrer dans ses projets pour nous. Alors peut-être me direz-vous, mais comment est-ce que tout cela fonctionne? Et je vous répondrai que c'est un mystère. C'est le mystère de la providence divine. C'est le mystère de Dieu qui tient toutes choses, dans sa main. C'est le mystère de Dieu qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est le mystère de Dieu qui œuvre dans l'histoire des hommes pour le rétablissement de toutes choses et l'instauration de son règne de paix. Combien ces vérités nous gardent dans l'humilité ? Ma vie est-elle utile dans les mains du Seigneur? Sans dévaloriser ni notre engagement, ni notre service, nous sommes rappelés ici que tout cela n'existe et n'est possible que par la grâce de Dieu, que parce que Dieu l'a voulu et que parce que Dieu a tout préparé à l'avance pour cela. Ces vérités nous garde dans l'humilité. Après la préparation de nos œuvres bonnes par le Seigneur, par Dieu lui-même, j'aimerais mentionner deuxièmement leur lien avec le salut, notre salut. Les œuvres bonnes préparées par Dieu lui-même font partie de l'objectif de notre salut. Paul dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Créés pour des œuvres bonnes. Nous vivons dans un monde qui a érigé l'épanouissement personnel en valeur suprême. Nous baignons littéralement dans une société, dans un monde où l'individualisme est roi. Et nous devons veiller à ne pas transposer ces valeurs, entre guillemets, aux choses de la foi et finir par croire que le salut, notre salut, est finalement et uniquement pour notre jouissance personnelle, pour notre jouissance égoïste. Et notre texte nous donne sur cette question la bonne perspective. Il y a, à n'en pas douter, une dimension personnelle au salut, une dimension personnellement bienfaisante au salut. Dieu nous sauve et il désire que nous jouissions de notre salut. C'est une évidence, que nous jouissions de tous les bienfaits attachés à notre salut. Cependant, nous arrêter à cette compréhension du salut serait lacunaire. Car au bienfait personnel du salut, il faut ajouter la dimension de notre texte. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si Dieu veut que nous jouissions de notre salut, et il le veut, il ne nous sauve pas cependant pour que nous passions tout le reste de notre vie à nous balancer égoïstement sur le hamac de notre salut. Si Dieu veut que nous vivions dans la joie et dans le repos du salut, il veut aussi que nous répondions à l'appel du service qu'il adresse à chacun de ses enfants, que nous entrions dans ses plans qu'il a préparés de toute éternité, que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de ses enfants. Et cette vérité biblique nous en rappelle une autre qui nous a déjà été rappelée ce matin. Le chrétien a été racheté. Ça veut dire que le chrétien ne s'appartient plus. Le chrétien appartient au Seigneur qui a payé la rançon de son péché. Écoutons ce que Paul dit à ce sujet dans sa lettre à Tite. Chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Oui, le chrétien appartient à son Seigneur, qui l'a sauvé, qui l'a racheté au prix de sa vie et qui a fait de lui une création nouvelle. Nous avons été créés en Christ Jésus, dit Paul aux Éphésiens. Dans quelle perspective? Pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres bonnes que Dieu prépare pour les siens font donc partie de l'objectif de notre salut. Elles font partie des raisons pour lesquelles Dieu nous sauve. Si les œuvres bonnes préparées par Dieu font partie de l'objectif de notre salut, elles sont troisièmement indissociables de notre foi. En fait, il ne peut pas y avoir de foi véritable sans œuvres bonnes. Les œuvres bonnes sont l'expression nécessaire et naturelle de la foi véritable. C'est ce que l'apôtre Jacques va souligner dans sa lettre au chapitre 2. À quelqu'un qui dirait « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. » On imagine le dialogue comme si les deux pouvaient être dissociés. Il y en a qui ont la foi, puis il y en a d'autres qui font les choses. Eh bien, que dirait Jacques à ces personnes? Jacques leur dirait, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Jacques répond ici que la foi et les œuvres sont indissociables. Elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Alors il ne s'agit bien évidemment pas des œuvres méritoires, pour mériter Dieu, pour mériter son salut par exemple. Il s'agit ici des œuvres qui accompagnent nécessairement la foi véritable en Dieu, qui jaillissent du salut, qui rendent visible notre foi et la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Tant et si bien que Jacques va affirmer dans ce même chapitre 2 que sans elle, sans ces œuvres qui accompagnent la foi véritable, la foi de quelqu'un est morte, dit-il, elle est inutile et elle est stérile. Oui, la foi véritable est indissociable des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et puis, le quatrième point que je voudrais souligner maintenant sur les œuvres bonnes, c'est leur utilité pour le salut. Quand notre foi est manifestée par les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, alors Dieu se sert, entre autres, de ces mêmes œuvres pour sauver et attirer à lui des hommes et des femmes. C'est entre autres ce que nous pouvons comprendre d'un passage très connu qui se trouve lui aussi dans le Sermon sur la montagne et que je lis maintenant, chapitre 5, versets 14 et 16. C'est vraiment la fin du verset qui nous intéresse, enfin de ce court passage. « C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. » Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres, vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et l'apôtre Pierre va dire quasiment la même chose dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 12. « Ayez une belle conduite, dit-il, parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et glorifient Dieu au jour de son intervention. » Quand le chrétien entre dans les projets de Dieu pour sa vie, dans les projets qu'il a formés pour lui de toute éternité, quand il manifeste sa foi par les belles œuvres ou les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui, quand sa lumière brille devant les hommes, alors Dieu, dans sa providence et dans sa souveraineté, va se servir de ses actes pour attirer à lui et pour sauver des hommes et des femmes au jour de sa visite, quand Dieu vient frapper à la porte de leur cœur. Oui, ces œuvres bonnes qui disent notre foi, la cohérence de ce que nous croyons, la beauté de ce que nous confessons, ces œuvres bonnes sont dans les mains de Dieu autant de moyens d'attirer à lui des hommes et des femmes afin qu'il lui rend de gloire. Et nous sommes certainement nombreux ici ce matin à pouvoir témoigner de cela pour nous-mêmes, témoigner l'impact pour notre propre salut d'un acte d'amour, d'un acte d'obéissance, d'un acte de consécration, d'un chrétien qui à un moment donné nous a interpellés et a été déterminant le moment venu pour notre propre conversion. Je dis au singulier, mais c'est très certainement même au pluriel. À bien y réfléchir, c'est une pensée extraordinaire que celle de Dieu se servant de nous, de notre fidélité, de notre obéissance, de notre service tellement imparfait pour le salut de quelqu'un. C'est une pensée extraordinaire. Et ma prière pour nous, c'est que Dieu nous fasse à chacun la grâce d'être dans sa main des instruments pour le salut de celles et ceux qui nous entourent. Après avoir considéré ces quelques généralités sur les œuvres bonnes, j'aimerais maintenant rapidement dire un mot sur ce qui nous permet de les identifier. Qu'est-ce qu'une œuvre bonne? Comment la reconnaître? Comment ne pas passer à côté sans la voir? Et là, il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire, et je n'ai pas le temps de tout dire, donc j'ai réduit à un seul texte, qui est cependant essentiel à la compréhension de ce qu'est une œuvre bonne dans la pensée biblique. Et ce texte, c'est un texte que nous connaissons bien, mais que nous connaissons bien pour autre chose. C'est un texte que nous connaissons bien sur la question de l'inspiration des Écritures. Un texte qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, versets 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Que dit ce texte en plus de l'inspiration des Écritures dans laquelle je n'entre pas ? Il dit que par l'action de la parole de Dieu en nous, nous sommes rendus capables par Dieu d'accomplir toute œuvre bonne. Qu'est-ce qu'une œuvre bonne ? On peut y répondre de bien des manières. À partir de ce texte, je formulerai les choses ainsi et je dirais que c'est une œuvre que je suis en mesure d'accomplir si je laisse la parole de Dieu faire son œuvre en moi, c'est-à-dire me transformer. C'est donc une œuvre qui ne saurait être en désaccord ou en contradiction avec quelque point que ce soit des Écritures. En d'autres mots, une œuvre bonne est une œuvre qui va découler du bon usage de la parole de Dieu, qui est en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi toute action qui serait en porte-à-faux avec ce que Dieu dit dans la Bible ne saurait être qualifié de bonne œuvre. Par contre, toute action qui répond à ce que Dieu demande dans sa parole peut être qualifiée de bonne œuvre. C'est pourquoi si je cherche à obéir à Dieu, à vivre ce qu'il me dit dans la Bible, alors je peux être assuré d'entrer, de marcher dans les bonnes œuvres qu'il a préparé pour moi. Et peut-être faut-il ici se débarrasser de cette idée, de cette conception qui conçoit les œuvres bonnes comme autant de choses mystérieuses, de situations à côté desquelles je peux passer sans même m'en apercevoir. Et ainsi les rater. Comme si la réalisation des œuvres bonnes dépendait uniquement de ma perspicacité, de mon discernement. À la suite de ce texte de Timothée, je crois plutôt qu'il faut comprendre les œuvres bonnes tout simplement, comme notre obéissance, comme notre réponse d'obéissance à la parole de Dieu. Chaque fois que nous marchons selon ce que Dieu dit, nous entrons, nous pratiquons les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Chaque fois que nous nous écartons de ce que Dieu dit, nous n'y marchons pas. Et j'utilise ici, vous l'avez peut-être remarqué, sciemment un autre verbe depuis quelques instants, le verbe « marcher ». Et je l'utilise parce que celui-ci figure littéralement dans le texte d'Éphésiens 2, où il a été traduit dans la traduction que j'ai choisie par « pratiquer », afin que nous les pratiquions. Littéralement, Paul dit « afin que nous y marchions ». Quel contraste. Pour ceux qui ont un petit peu la lettre aux Éphésiens en tête, vous vous souvenez que Paul, au début du chapitre 2, a rappelé ce qu'était le croyant avant sa conversion, ce qu'il faisait avant sa conversion. Je lis les deux premiers versets du chapitre 2. « Pour vous, dit Paul, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, avant notre conversion, nous marchions dans nos fautes et dans nos péchés. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, nous pouvons marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour chacun de ses enfants. Quel contraste, quel changement et quelle grâce. En parlant de servir Dieu, nous avons développé, en tout cas j'ai cherché à développer tout au long de ces messages, l'idée que ce qui est important dans ce domaine, ce ne sont pas les grandes ou les petites choses que nous pouvons faire, mais c'est d'entrer, de pratiquer ces œuvres bonnes que Dieu prépare pour nous. C'est d'entrer d'une certaine manière dans le programme qu'il a établi pour moi. C'est de servir Dieu en accomplissant sa volonté, en obéissant à sa parole. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse à mes yeux de ce que Dieu attend de moi. Quel que soit le moment de l'année, quelle que soit mon occupation du moment. Si le texte d'Éphésiens 2 lève un pan du voile en nous révélant que Dieu a préparé nos bonnes œuvres de toute éternité pour que nous y marchions, d'autres textes viennent compléter le tableau par diverses exhortations sur le sujet. Et je termine en relevant brièvement trois. La première exhortation, je la trouve aussi dans la lettre de Paul à Tite. Rappelle-leur, Tite 3, versets 1 et 2, rappelle-leur d'être soumis aux princes, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant et de faire toujours preuve de douceur envers tous les humains. La première exhortation, c'est d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est ici la question de notre disposition intérieure, de notre disponibilité. Comment être prêt ? Ben nous venons de le voir, en laissant la parole de Dieu faire son œuvre de transformation dans ma vie, en me nourrissant régulièrement de cette parole de Dieu, en demandant régulièrement à Dieu de me transformer par sa parole et par son esprit. J'ai dit brièvement, donc je passe à la deuxième exhortation. Elle se trouve également dans Tite, et là je lis plusieurs versets, au chapitre 3 et puis au chapitre 2. « Cette parole est certaine, et je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. » Et puis un peu plus loin, chapitre 3, verset 14, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes pour subvenir aux nécessités urgentes afin de ne pas être sans fruit. » Et puis, on revient un peu en arrière, chapitre 2, verset 14, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » Exceller dans les œuvres bonnes. Il ne faut donc pas juste faire, juste pratiquer une fois de temps en temps, en passant, quand j'y pense, si j'y pense. Mais il faut viser l'excellence. Faire de notre obéissance à la parole de Dieu la priorité suprême de notre vie. Et c'est ainsi que nous pourrons exceller dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Enfin, la troisième exhortation qui correspond finalement au sens du message de ce matin, et nous lisons dans la lettre de Paul, là c'est Onésime qui m'a induit en erreur, hein. C'est pas Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, on ne sait d'ailleurs pas qui l'a écrit, peut-être Barnabas, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être Paul, c'est quand même une option. L'auteur de l'épître aux Hébreux qui écrit au chapitre 10, versets 24 et 25, « Veillons les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Nous devons nous exhorter, nous inciter aux œuvres bonnes, nous encourager les uns les autres à le faire. Il est tellement facile dans nos rapports fraternels de parler de tout, sauf du Seigneur, de tout, sauf de notre marche avec lui, de nos joies, de nos peines, de nos difficultés, de nos victoires, de nos défaites, de tout, sauf de sa volonté pour nos vies. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, les choses sont ainsi, mais j'ai l'impression que nous avons peur, si nous le faisons, de passer pour quelqu'un de trop spirituel. On ne veut pas être trop spirituel. Mais peut-il être normal que des enfants de Dieu ne parlent pas des choses de Dieu, des choses de la foi? Ces échanges, ces partages, ces exhortations sont nécessaires, stimulants, bienfaisants. Pour nous, pour notre foi, pour notre marche avec le Seigneur, nous en avons besoin. Elles sont nécessaires pour notre pratique des bonnes œuvres, pour que nous puissions y exceller. Ne nous en privons pas. Demandons au Seigneur de nous accorder suffisamment de simplicité et d'humilité dans nos échanges, pour qu'il y ait aussi de la place à côté de la Coupe du Monde et à côté de tout le reste dont il faut aussi parler, mais qu'il y ait aussi de la place pour des encouragements réciproques, à persévérer sur le chemin de la foi, à vivre de tout ce que Dieu dit dans sa parole, à marcher dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour que nous y entrions. Au travail comme en congé, en hiver comme en été, à l'école comme en vacances. Que Dieu nous y aide. Amen. Je vous invite à quelques instants de méditation silencieuse.